Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. L'épisode que vous écoutez actuellement est issu d'un webinaire EduSign. Vous pouvez retrouver gratuitement ce webinaire et tous les autres sur le site edusign.com, dans la section ressources et nos webinaires. Bonne écoute. Et c'est donc un plaisir d'être présent avec toi aujourd'hui, Théo. On a aussi Antoine et Elinor qui ont participé, mais donc ça va être, j'imagine, toi plutôt qui va présenter aujourd'hui. Moi, je vais me présenter très rapidement en deux mots, même si ce n'est pas trop l'objet du webinaire. Donc, moi, je suis cofondateur d'EduSign. Pour ceux qui ne connaissent pas EduSign, donc c'est un outil qui vous permet de gagner du temps sur la gestion de l'assiduité, des documents, des questionnaires en formation. Donc, qui vous permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le site. Mais autrement, je suis donc ici avec Théo, qui va nous parler d'un sujet qui est assez chaud pour les écoles du supérieur, en tout cas, pour les organismes de formation aussi, peut-être dans une mesure un peu différente. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura un petit parallèle à mettre à un moment. Et puis, comment donc recruter des intervenants dans l'enseignement supérieur, qui est vraiment une difficulté aujourd'hui. Mais Théo, je te laisse la main et reprendre et nous expliquer tout ça.
Eh ben merci Elliot. Aujourd'hui c'est bien ça, on va discuter de cette activité de recrutement qui est un peu particulière parce que dans le monde du RH, elle est un petit peu boudée et aujourd'hui il n'y a pas d'outils en particulier qui vont vous aider à faire ce recrutement d'intervenants. Pour ça on va le faire en trois temps. On va d'abord parler des défis liés au recrutement d'intervenants, donc en s'attardant un petit peu sur le profil de l'intervenant. Ensuite on va parler des canaux qui sont à disposition pour recruter et identifier les bons intervenants. Et enfin, on fera un petit cas d'usage avec des recherches carrément en live sur LinkedIn. À ce moment-là, je pense que ça pourrait être vachement intéressant aussi, potentiellement, si vous le désirez, d'aller voir certaines recherches qui ont pu être postées par des personnes de votre équipe. Ça, on aura l'occasion de le voir quand on arrivera sur cette partie-là qui a pour but d'être un petit peu plus interactive. Donc là, Elliot, tu t'es déjà un peu présenté. Donc moi, je suis Théo Duhem, cofondateur de Tenors. Tenors, ça a bientôt trois ans et demi maintenant. L'objectif de Tenors, c'est de mettre en relation des intervenants avec des établissements de l'enseignement supérieur. Pour les intervenants, aujourd'hui, c'est 100% gratuit et sans commission, ce qui fait qu'il n'y a pas de barrière à l'inscription et ce qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre plus de 15 500, maintenant bientôt 16 000 intervenants disponibles sur la plateforme, partout en France et sur 25 domaines d'expertise. Et ces intervenants, en tant qu'école, vous pouvez les solliciter aujourd'hui de deux manières, soit en parcourant la base de données avec des filtres afin de trouver la personne qui vous intéresse, soit en créant des offres de recrutement qui seront directement relayées aux bonnes personnes dans cette base de données. On aura l'occasion de toute façon d'y repasser si ça vous intéresse. Donc, pour cette première partie, les défis liés au recrutement d'un intervenant. Donc pour moi, la première question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est un intervenant, c'est qui ? C'est qui, c'est quoi, c'est comment ? Donc il y a différents types de profils qui vont pouvoir faire aujourd'hui des bons intervenants. On va parler du premier profil qui va un petit peu moins être abordé tout au long de cette présentation, je suis désolé, mais c'est les enseignants à temps plein. Donc on le voit hein, en termes de curseur, les enseignants à temps plein en termes de pédagogie, ce sont des experts, c'est des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont eu un diplôme qui a été façonné autour de cette capacité à transmettre leur expertise. En revanche, c'est des personnes qui vont avoir un peu moins d'expertise terrain et qui vont aussi pouvoir proposer moins d'opportunités aux étudiants. Parce que cette partie d'opportunités qu'on va pouvoir proposer aux étudiants lors d'une intervention, lors d'un cours, elle va nous intéresser tout au long de cette présentation parce que c'est grâce aussi au bon recrutement et aux bonnes personnes qu'on va être capable de maximiser l'utilisation de cette intervention en donnant en plus de ça des portes qui s'ouvrent pour nos étudiants qui ont participé à cette intervention. Donc l'enseignant à temps plein aujourd'hui, un expert dans la pédagogie, mais qui va forcément avoir plus de difficultés pour proposer des opportunités. De l'autre côté, on va avoir les indépendants. Il y en a deux types. Il y a les experts métiers. Donc, quand je parle d'un expert métier, c'est par exemple, on prend un exemple qui est assez parlant, un développeur expert dans une technologie de Java qui va aujourd'hui faire des activités de freelance au sein d'entreprises, voire même du consulting pour des startups. Ça va être vraiment donc, une personne qui va enchaîner de projet en projet. Donc, cette personne va pouvoir faire un bon intervenant avec une pédagogie, évidemment, qui est limitée. Hein. C'est une personne qui n'a pas forcément appris les tenants et aboutissants de la pédagogie pour transmettre son savoir, mais qui, en revanche, va avoir une énorme expertise terrain, étant donné que c'est une personne qui va faire beaucoup de missions sur une année, qui va pouvoir enchaîner plusieurs entreprises, voire plusieurs typologies de projets, et malheureusement qui ne va pas pouvoir donner beaucoup d'opportunités aux étudiants, étant donné que de manière assez logique, hein, c'est une personne qui est indépendante, donc qui ne va pas être amenée à recruter des alternants, des stagiaires, voire pouvoir proposer des CDI. On a aussi les formateurs. Donc là, les formateurs, ce sont des personnes expertes dans la pédagogie. On voit le curseur de pédagogie qui va réaugmenter. C'est des personnes qui ont l'habitude de donner des cours, qui ont des cours qui sont déjà faits et qu'on va même pouvoir potentiellement solliciter de manière un peu à la dernière minute, étant donné que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ils vont avoir forcément une expertise terrain qui diminue un petit peu, étant donné que souvent, c'est des personnes qui ont eu cette expertise terrain, qui ont eu cette expertise métier, mais qui aujourd'hui se sont focalisés sur cet aspect de formation. Et enfin, la partie opportunité qui baisse également et qui va rejoindre un petit peu le curseur de l'enseignant à temps plein, étant donné qu'un formateur, de la même manière qu'un enseignant à temps plein, hein, son métier, c'est de former. Et donc, moins d'opportunités pour un étudiant d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce. De l'autre côté, et le dernier profil qui va nous intéresser et sur lequel on va beaucoup se focaliser aujourd'hui, ça va être les salariés, personnes qui ont une mission à temps plein, qui vont être en CDI, CDD dans une entreprise. On voit un curseur pédagogique un petit peu en dessous de la moyenne, étant donné que souvent, ce sont des personnes qui ont eu l'occasion d'avoir des cours, mais qui n'en ont peut-être pas tout le temps donné. Mais potentiellement, ce curseur peut être amené à beaucoup augmenter si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des interventions. Vous devez en croiser et en connaître surtout pas mal des personnes qui, en plus de leur métier, ont enchaîné pas mal d'interventions et sont chez vous depuis peut-être plusieurs années. Ces personnes-là, évidemment, en expertise terrain, c'est vraiment très bon aussi, hein. C'est des gens qui sont au quotidien face à des problématiques professionnelles, qui vont avoir des interactions et qui vont avoir potentiellement donc beaucoup d'opportunités à offrir. Des CDI, des CDD, des alternances, des projets, et qui vont aussi avoir cette capacité à aider l'étudiant à s'orienter. Donc, c'est des profils qui vont avoir une véritable valeur ajoutée au-delà du cours qu'ils vont transmettre. Donc ça, des profils très intéressants, mais forcément beaucoup plus complexes à identifier. Donc ce que on va conclure là-dessus, hein, chaque profil a donc sa valeur ajoutée pour les étudiants, une valeur ajoutée qui va être différente selon le profil. Chaque profil aura des attentes différentes de la part de l'école. Évidemment, un intervenant salarié va avoir beaucoup plus d'attentes sur, on va dire, l'accompagnement, sur l'aménagement des horaires, plutôt qu'un intervenant formateur, on va dire, indépendant, qui, lui, va avoir une demande déjà de quantité d'heures de quantité d'heures pour une intervention chez vous, mais également de problématiques au niveau du paiement, de l'administratif, etc., parce que cette personne compte sur vous là-dessus. Et enfin, chaque profil aura donc une méthode de recrutement différente. Et ça, on va pouvoir en reparler, même si tout de suite, on va se concentrer dans un premier temps pour essayer de tout rassembler sur les critères que je vais devoir obligatoirement valider pour être sûr que je fais le bon recrutement, parce qu'on a eu des exemples dans l'actualité qui ont montré que c'est très compliqué de faire le bon recrutement. On peut être amené à changer souvent. Donc, ces critères-là, ils vont être communs à tous les profils qu'on vient d'aborder. Le premier, ça va être évidemment le domaine d'expertise. Il faut que je m'assure que le domaine d'expertise de mon intervenant matche avec le cours que je cherche. Sans ce domaine d'expertise-là, évidemment, pas de cours. Deuxième, ça va être la disponibilité. La disponibilité, c'est souvent ce qui va faire le plus défaut à l'intervenant tout au long du process de recrutement. Étant donné que cette disponibilité, il va y avoir la disponibilité géographique, elle est plus facile à valider, étant donné que si je cherche quelqu'un sur Toulouse et que cette personne habite à côté de Toulouse, c'est OK, on est validé. En revanche, il va y avoir cette disponibilité temporelle qui va faire grandement défaut à beaucoup de types de profils. Je pense notamment aux intervenants qui vont être salariés à côté. Beaucoup plus de complexité pour eux d'avoir une certitude sur leur disponibilité et une visibilité à long terme. Beaucoup plus de complexité aussi sur le fait de leur expliquer comment ça va s'organiser. Je pense que vous avez dû avoir cette expérience assez souvent. Vous parlez à une personne qui est salariée, elle est emballée par le projet d'intervenir, et dès lors qu'elle va être face au nombre d'heures qu'il va y avoir en préparation, au nombre d'heures qu'il va y avoir après, et à l'organisation de leur agenda avec les congés qu'il va falloir poser, etc., là, d'un coup, il n'y a plus personne. Et ça, c'est une véritable complexité qu'il faut prendre en compte à tout moment du recrutement, parce que ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Le format d'intervention, Une personne qu'on va solliciter pour une conférence d'une heure et demie n'aura pas forcément à avoir les mêmes skills qu'une personne pour animer un workshop, un cours, un TP, un TD. Faut faire assez. Chaque typologie de profil qu'on a pu voir tout à l'heure aura d'ailleurs sa spécialité sur cette animation. Et ça peut être intéressant de se focaliser sur le type de profil par rapport au format qu'on va essayer de trouver. Le niveau de diplôme, de plus en plus regardé, notamment avec les critères Calliope qui vont être à respecter. Je sais que notamment aujourd'hui, hein, quasi systématiquement, pour que vous ayez un intervenant en bac plus 3, il faut qu'il ait au minimum un bac plus 3. Ça peut être complexe. Je sais que sur pas mal de domaines aujourd'hui, on a beaucoup d'autodidactes, on a beaucoup de réorientations. On a aussi des personnes qui, au final, n'ont pas eu un diplôme très élevé à l'époque, mais qui aujourd'hui ont une expertise. Ça peut mettre une véritable barrière dans le recrutement et, malgré la capacité que va avoir la personne à donner un cours. Ensuite, la rémunération, le sujet tabou par excellence en France. On n'en parle jamais, on ne le verra jamais dans aucun des postes. Et pourtant, il est super important et il pourra être critère de no-go de l'autre côté, côté intervenant. Vous pouvez avoir trouvé la meilleure, la perle rare et la meilleure personne pour votre cours. À côté de ça, vous allez avoir vos grilles de rémunération qui sont en fonction du niveau des étudiants, en fonction de la quantité d'heures de cours qu'on va devoir donner. Et souvent, c'est des grilles sur lesquelles on ne peut pas déroger. Et malheureusement, ces grilles vont être relativement faibles par rapport à certains types de profils. Et donc, ça va créer un no-go alors qu'on a été très loin dans le processus de recrutement, peut-être même qu'on a fait plusieurs entretiens, qu'on a passé beaucoup de temps à parler avec les personnes, avec cette personne. Et en fait, en tant que Français, on va aborder ce sujet-là souvent en dernier. Et donc, potentiellement, avoir la mauvaise surprise à la fin, et avoir perdu beaucoup de temps sur ce recrutement. Et enfin, la qualité pédagogique. Alors celle-là, c'est, je pense, l'une des plus complexes. Déjà, c'est quelque chose qu'on ne pourra vérifier que lors d'un entretien, parce que potentiellement, on pourra le vérifier, mais après le cours, ce qui n'est pas forcément la meilleure technique. Aujourd'hui, cette vérification de la qualité pédagogique, je ne connais pas exactement les différentes manières et méthodes que vous allez utiliser. En revanche, de notre côté, chez Tenors, on a travaillé sur on va dire un petit questionnaire et un petit livre blanc qui va pouvoir potentiellement vous aider à poser les bonnes questions lors d'un entretien pour évaluer la qualité pédagogique. Ça va être avec des questions-réponses, ça va être avec des questions sur des méthodes, avec des mises en pratique. N'hésitez pas, là, on va pouvoir le partager, je pense, dans le chat par la suite, ou alors vous l'envoyer ensuite. N'hésitez pas à me le demander à la fin
On
de
l'enverra
cet
effectivement
entretien.
par email après le webinaire.
Merveilleux. Donc tout ça. Si on le prend un par un et on veut faire un entretien, on va dire assez quali, il faudra au minimum 45 minutes, je pense, pour aborder tous ces sujets. Problématique, c'est que si on fait un petit calcul pour une petite école qui aurait 25 intervenants à recruter avec un seul responsable pédagogique, ça fait 45 minutes fois 3 fois 25 intervenants, soit 56 heures, donc une semaine et demie uniquement dans l'entretien, ce qui fait beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a le temps de recherche de cette personne, il y a les no-shows, il y a les annulations de dernière minute. Hein, on en parlait avec notamment des profils plutôt type salarié qui vont réaliser petit à petit que ça prend du temps. L'incapacité à recruter après les 3 entretiens, on a de plus en plus de nouveaux domaines qui vont être de plus en plus compliqués à aller chercher. Et puis on l'a vu, il y a quand même pas mal de contraintes, potentiellement le diplôme qui fait qu'on ne peut pas recruter, la rémunération qui fait qu'il y a un no-go par la suite de la part de l'intervenant. Et l'incapacité d'avoir même un entretien. On a été sollicité, nous, au sein de Tenors, pas mal de fois sur des profils où l'école nous dit, nous, on n'arrive pas à recruter. Et nous, on a beau animer un petit peu partout, on va avoir une énorme difficulté à trouver ne serait-ce qu'un candidat. Et ça arrive de plus en plus parce que il y a un véritable changement de domaine d'enseignement. Il va y avoir de plus en plus de domaines d'expertise sur lesquels vous allez devoir recruter du monde. Et donc, il y a une véritable complexité de recrutement à ce propos-là. Il faut pas oublier aussi que du coup cette semaine et demie d'entretien qui va arriver à un certain moment de l'année, souvent après la planification, il faut aussi rajouter à ça toutes les autres activités d'un responsable pédagogique à côté, avec l'interaction avec les élèves, avec l'organisation qu'il va y avoir autour de l'école. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps avec potentiellement une réussite qui n'est pas garantie à 100%. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'identifier ces quelques critères qui vont normalement, enfin, qu'on va avoir la capacité de valider avant même le premier entretien, pour qu'on puisse ensemble se réorienter pendant l'entretien avec la personne. Donc, domaine d'expertise, normalement, c'est le numéro 1 qu'on va identifier. Donc, on devrait plutôt bien viser avec une simple recherche sur le profil, avec la lecture d'un CV, si le domaine d'expertise match. La disponibilité, là, on est sur quelque chose qui va être plus complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la géographique, disponibilité géographique, assez simple, mais disponibilité temporelle extrêmement complexe. Que ce soit par rapport à votre incertitude quand vous recrutez une personne, à lui donner le jour sur lequel il va y avoir l'intervention, le nombre d'heures par jour, les potentiels changements qu'il va y avoir. On sait que s'il y a un prof absent, ça chamboule tout et puis on rechange et parfois les élèves sont gros pas dispo, etc. Ces changements vont avoir sur certains profils un impact non négligeable. Le format, normalement, le format, il est de votre côté très facilement identifiable et de l'autre côté, c'est assez simple, entre guillemets, hein, de savoir si une personne va être capable de faire une conférence ou non, ou si elle va être plutôt adepte à faire du cours classique, du workshop, etc., etc. Le niveau de diplôme, pas toujours facile à vérifier et au-delà de ça, pas toujours simple pour recruter. Ça peut être un des facteurs le plus handicapant, je pense, aujourd'hui, parce que des personnes aujourd'hui qui ont des très beaux métiers et une très grosse expertise, mais qui ont un bac plus 2, voire même pas du tout, il y en a beaucoup. On est sur une génération qui a eu beaucoup d'opportunités à ce niveau-là et sur le diplôme qui était moins regardé, aujourd'hui, il est beaucoup plus. Donc, ça peut être un critère qui est très pénalisant. La rémunération, j'ai mis forcément en rouge, hein, on en a parlé, sujet tabou par excellence, sujet abordé en dernier lieu. Et on ne va pas se mentir, hein, à chaque fois, c'est toujours la même remarque et ça dépendra des écoles, évidemment. La rémunération, en tant que Français aussi, ce ne sera jamais assez haut. Donc, il y aura toujours une déception côté intervenant sur cette quantité de rémunération. Et enfin, la qualité pédagogique, j'ai pu en parler, assez complexe, surtout à caler dans un entretien. Encore une fois, ça va dépendre du type de profil. Pour une personne qui est formateur ou un enseignant, évidemment, très facile à vérifier. De l'autre côté, pour une personne qui a moins d'expertise là-dessus, je pense notamment aux experts indépendants dont on a parlé tout à l'heure, souvent, ça peut être un hic parce que ils ont une telle expertise que le fait de transmettre va devenir assez complexe. Et enfin, le savoir-être, quelque chose qu'on ne peut vérifier que pendant l'entretien. Ça va être basé sur un feeling, hein, c'est toute la complexité du métier RH, avoir la capacité de se projeter avec la personne, la manière dont elle va interagir avec les étudiants de mon école. Est-ce que le mindset va matcher avec ce qu'on essaye d'avoir, avec ce qu'on essaye de mettre en place avec nos étudiants? Ça, c'est ultra complexe. Il n'y a pas de formule magique. Il faut absolument avoir au moins un échange téléphonique de quelques minutes avec cette personne afin de valider ça. Donc ça, c'est 7 critères essentiels au recrutement d'un bon intervenant qu'on va garder tout au long de notre observation pour les prochaines parties. Donc là, où trouver des intervenants? C'est ce qui va nous intéresser et c'est là où on va passer le plus de temps. J'ai essayé, par rapport à mes 3 ans et demi d'expérience dans le domaine, de dresser la carte un petit peu de ce qui va se passer du côté de votre RP et même de votre organisation d'école quand vous allez chercher un intervenant. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais je pense que ça devrait être assez proche. Donc, évidemment, vous gardez vos bons intervenants. Enfin, vous essayez de garder vos bons intervenants parce que eux aussi, ils sont sollicités par d'autres écoles. Potentiellement, il y a eu aussi des réalisations de leur côté. Ça m'a pris trop de temps, j'ai été payé trop tard, je ne suis pas dispo cette année, ma femme elle est enceinte, je déménage, etc.
Juste et haute, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important, tu vois, dans le recrutement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a déjà à disposition. C'est quoi, de ton expérience, les pièges, les petits trucs qui font que un bon intervenant va partir et qu'on aurait peut-être pu éviter?
Moi, je pense que il va y avoir plusieurs points, évidemment, mais le premier, ça va être la communication directe avec l'intervenant. Déjà, le fait de lui dire que ça s'est bien passé, d'avoir des bons feedbacks de la part des étudiants et de lui redonner ses feedbacks, de le féliciter là-dessus, de toujours le mettre dans ses meilleures dispositions, avoir la capacité de donner les bonnes informations à l'intervenant au bon moment, à l'avance, et qu'il y ait une organisation qui soit nickel pour que lui, en fait, il se sente en confiance. Et surtout, toujours dans cet aspect de communication, le fait de le prévenir à l'avance, quand on a senti que ça s'est bien passé, de lui dire, écoute, franchement, l'année prochaine, je pense qu'on va être amené à travailler ensemble. Prépare-toi déjà mentalement à ce qu'on recommence, à potentiellement donner un petit peu des dates, etc. Je pense que ouais, plus on va, enfin, au mieux on va communiquer avec cette personne et lui envoyer les signaux qui montrent qu'on a envie de travailler avec lui, plus on va avoir la capacité de rester là-dessus et il va y avoir ce côté fidélisation. Après, évidemment, ça, c'est des paramètres qui vont dépendre aussi du type de personne en face. C'est des paramètres qui vont avoir encore plus d'impact si on est avec un alumni de l'école. Souvent, les alumni, il y a ce
C'est sûr.
côté, on a envie de rester dans l'école et de rendre un peu l'appareil. Mais je pense que ouais, pour moi, le numéro un, c'est cette communication et cette mise en place d'une confiance des deux côtés. Je l'ai déjà répété, hein, mais c'est parce que c'est quelque chose qui nous vient souvent de la part de nos intervenants, avoir aussi être réglo en termes d'administratif, hein, avoir des contrats qui sont prêts au bon moment, avoir les paiements qui sont envoyés dans les temps impartis, etc. Ça va aussi permettre de garder des intervenants avec qui ça s'est bien passé.
Communication et administratif, nickel, et ça
Ouais,
déjà permet
clairement.
d'améliorer le tout. Ok,
Je
super.
pense que ça peut être les deux gros points à retenir. Je vire mes mauvais intervenants. Là, pareil, hein, quand on a des mauvais feedbacks de la part des étudiants ou alors que la communication avec l'administratif, ça s'est mal passé, je pense que il faut aussi arrêter directement. Même si le profil est compliqué à trouver, je sais que ça peut arriver qu'on ait beaucoup plus de galères à le trouver parce que on le garde parce qu'en fait, c'est un profil un peu complexe. Moi, je pense que ça peut être vraiment très complexe pour l'école après et pour les feedbacks de la part des étudiants qui sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de sites internet ou même d'avis qui vont être émis de la part des étudiants maintenant. Et un mauvais intervenant peut entacher l'intégralité d'une année de manière catégorique. J'identifie ce qu'il me manque, évidemment. Donc ça, c'est tout le rôle de la planification dans lequel on va rentrer petit à petit au sein de vos écoles. Je sollicite mon réseau, donc le bouche à oreille. Je sollicite le réseau de mes bons intervenants. Souvent, ils ont un bon réseau également.
C'est un point
Je fais sur
sous-estimé, hein,
LinkedIn.
je tiens à le dire, c'est quelque chose souvent que je vois assez peu. Et je ne sais pas si c'était ton expérience aussi, tu as le retour pareil, ou est-ce que tu vois que les écoles ont ce réflexe?
Moi, j'aurai l'occasion d'en parler, du coup, de cette partie-là. Mais ça va dépendre. Des responsables pédagogiques, mais souvent des responsables pédagogiques qui ont de la bouteille, qui sont là depuis quelques années, ça va être un réflexe numéro un pour eux.
Et bah
Tu peux
super.
pas le faire, ah, d'accord, toi t'es bon, donne-moi les bonnes personnes. C'est le réflexe des personnes qui sont là depuis quelques années et qui savent un petit peu comment la machine fonctionne, je trouve en tout cas. Ensuite, je vais sur LinkedIn. Une fois sur LinkedIn, je fais des posts. Et une fois que j'ai fait des posts, je fais de la chasse. Parce que c'est un peu, on commence à arriver au bout de l'entonnoir. Et si je suis désespéré, je poste sur les job boards. Moi, c'est clairement ce que je vois aujourd'hui, la plupart du temps, sur le recrutement d'intervenants au sein d'une école. Donc là, il existe quand même des bonnes techniques, enfin, différentes techniques qui vont avoir chacun leurs avantages, leurs inconvénients. On va se concentrer sur ces trois techniques. Donc la première, celle dont on parlait juste avant, Elliot, le bouche à oreille. Ce qui est pas mal, hein, c'est confiance et fiabilité. Hein. Je vais demander à une personne avec qui ça a matché de me recommander quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. Donc là, déjà, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa parce que on va avoir cette partie savoir-être normalement qui devrait être un petit peu plus facile à valider. Coût réduit, le bouche à oreille, ça coûte zéro. C'est super. Et simplicité, j'évoque mon besoin à une personne qui connaît le milieu. Elle l'évoque à une autre personne. C'est quand même très intéressant. Malheureusement, il y a des inconvénients. Il faut un réseau déjà. Il faut le bon intervenant, il faut la bonne personne à qui parler. Il faut qu'on ait la bonne relation avec cette personne. Il y a un facteur chance qui est énorme. Parce que le bouche à oreille, souvent, c'est de l'informel. Donc, en fait, cognitivement parlant, hein, il faut que quand on parle à cette personne, lui, il fasse la relation avec la bonne personne de l'autre côté aussi. Facteur chance, il est quand même immense. Puis derrière, il va y avoir tous ces critères qu'on a vus tout à l'heure ensemble. Il va falloir matcher tout ça parce que c'est bien beau de penser à la bonne personne. Il faut que disponibilité géographique, temporelle, domaine d'expertise, rémunération, niveau de diplôme, etc. Manque de diversité. Moi, j'ai un directeur d'école qui m'avait parlé de ça et je trouve que le mot est très bien trouvé. C'est du cannibalisme. En fait, souvent, le meilleur intervenant que vous avez, il est dans d'autres écoles. Et ce meilleur intervenant, il a des copains qui sont bons intervenants, qui va recommander. Et en fait, on se retrouve avec trois écoles, par exemple à Bordeaux, qui vont avoir les mêmes intervenants partout. Donc finalement, ce qui fait l'originalité de l'école va être enlevé par ce recrutement qui va être fait avec cette technique de bouche à oreille. Donc beaucoup plus compliqué. On va dire le volume, on ne peut pas traiter une grande quantité de recrutement avec du bouche à oreille. Ça n'a pas de sens et c'est totalement impossible. Et enfin, les nouveaux domaines, j'en ai parlé plusieurs fois. Nous, c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup sollicité. En fait, on le constate assez rapidement. Les nouveaux domaines d'expertise, les nouveaux types de cours, on va beaucoup être sollicité là-dessus. Je prends toujours le même exemple, mais les personnes qui vont chercher en cryptographie, en blockchain, en NFT, etc., là, d'un coup, il n'y a plus personne qui a de réseau. Parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps d'en créer un. On est sur des domaines qui sont assez neufs. Il y a moins de gens. Donc bah là, le bouche à oreille, il y a une incapacité totale à fonctionner sur ce type de profil. Donc, quand même, pas mal d'avantages, hein, et souvent à utiliser directement à la suite de la planification quand on voit qu'il y a quelques trous. Mais je ne pense pas que ce soit celui-là qui va vous permettre de recruter la totalité de vos intervenants. L'autre côté, les job boards, je l'ai écrit dans ce que moi je pensais être le trajet classique d'un responsable pédagogique qui va être en quête de recrutement. Pour moi, il arrive en dernier, tout simplement parce que les avantages, évidemment, quantité des profils, hein, c'est super. Détail des annonces, on peut donner quand même quelques détails qu'on n'aurait pas pu donner lors du bouche à oreille ou sur d'autres points. Et puis, on s'adresse à des personnes qui sont là pour être recrutées. Donc, c'est fait pour le recrutement, on s'adresse aux bonnes personnes quand même. Et je vais prendre un exemple qu'il ne faudra pas sortir de son contexte, mais on s'adresse à des personnes qui ont faim et on leur propose, entre guillemets, à manger. Mais ça va être un problème parce qu'en fait, ces personnes ont faim d'un CDI, un CDD. Et elles vont, du coup, comme quand on fait les courses et qu'on a faim, on va se dire ça, c'est très bien. Et en fait, au final, ce n'est pas du tout ce qui va leur correspondre. Donc, il va y avoir une très grosse motivation au début en se disant, tiens, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai besoin de travail, j'ai besoin de temps et j'ai potentiellement besoin d'argent aussi. Et en fait, les interventions à part pour, encore une fois, des formateurs qui vont avoir une très grosse quantité horaire, ce n'est pas ça qui permettra d'avoir un métier à temps plein ou alors pour très peu de profit. Ensuite, pas taillé pour l'enseignement. Ça, je pense que n'importe quelle personne qui a déjà essayé d'aller sur des job boards pour parler d'un recrutement d'intervenants l'a constaté. On ne peut pas mettre tout ce qu'il faut dessus, ou alors il faudra utiliser l'encart description en mettant tout le syllabus d'un coup, et ça va être illisible et indigeste. Donc, c'est vraiment pas taillé pour l'enseignement. Et puis, on ne s'adresse pas à des personnes qui ont cette envie d'intervenir. On s'adresse à des personnes qui sont en recherche d'emploi à temps plein. Ce n'est pas du tout les mêmes. Souvent, les intervenants qui vont être du coup salariés à côté, c'est plutôt des personnes qui ont un travail, ils s'en sont satisfaits, mais ils ont envie d'aller voir un petit peu à côté sans pour autant changer de travail. Et puis,
Finalement,
bah, manque
peut-être,
de ciblage. Pardon?
j'allais dire, peut-être garder en fait cette méthode pour les intervenants que vous voulez recruter à temps plein, s'il y en a, parce que
Bien
ça peut
sûr.
arriver quand même dans les écoles. Vous cherchez un professeur qui doit faire de la recherche à côté en même temps. Là,
Ça,
j'imagine que
carrément.
ça peut être pas mal.
Ben, ça peut être pas mal, même je pense aussi si on élargit un peu pour des responsables pédagogiques, coordinateurs pédagogiques, planificateurs, etc. Et le constat que j'ai, donc on ne s'est pas encore penché à 200% là-dessus, mais c'est même sur ça, il y a un manque de cohérence entre la plateforme de recrutement et l'enseignement, et ils ont une difficulté. Aller trouver un chercheur aujourd'hui, c'est très complexe. Aller trouver un prof, un enseignant à temps plein. Pour une prépa ou pour une école du coup bac plus 3, ça va être aussi ultra complexe et c'est des réseaux qui sont assez particuliers, qui vont être un petit peu en marge. Je vois très mal une école recruter un chercheur sur Welcome to the Jungle, par exemple, que tu dois bien connaître aussi, Elliot.
C'est sûr, oui, bien sûr.
Donc, c'est encore une fois, c'est pas le mieux. Et enfin, LinkedIn, le mastodonte, le chouchou numéro 1 des écoles. Bah, les avantages très faciles, hein, quantité de profils astronomiques. Si je dis pas de bêtises, quand on tape intervenant dans LinkedIn, juste intervenant recherche personne, on a 870 000 personnes qui sortent. C'est fantastique, hein, on se dit ouais, c'est gagné. C'est gratuit, c'est fait pour recruter. On parle à des personnes. C'est un réseau sans être du réseau. Moi aujourd'hui, il y a 20 000 personnes avec qui je suis en premier dans mon réseau. J'en connais pas un 90e, mais pourtant, c'est quand même considéré comme des personnes dans mon réseau. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir appeler un peu le bouche à oreille 2.0. Hein. Ça nous permet très facilement de contacter une personne et de lui parler un petit peu de ce projet d'intervention. Mais LinkedIn va avoir évidemment son lot d'inconvénients. Bah, la quantité de profils, on en a parlé, c'est un avantage, mais un inconvénient. C'est aussi noyé dans la masse. C'est super compliqué de cibler la bonne personne sur LinkedIn, tellement il y en a. Et en plus de ça, bah, la qualité des filtres, personnellement, pour avoir fait beaucoup de recherches et pour l'utiliser très souvent avec mon équipe service client, elle n'est vraiment pas adaptée. Les domaines précis sont super complexes à aller chercher. Je ne sais pas s'il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent dans l'informatique, mais aller chercher un profil dans l'informatique sur LinkedIn, c'est d'une complexité sans nom. Parce que les filtres ne sont vraiment pas adaptés à ces domaines-là. Et aller chercher des profils tout simplement dans des domaines qui sont un petit peu plus représentés, je pense notamment communication et marketing, bah, en fait, le filtre ne nous permet pas d'avoir un niveau de granularité assez élevé pour aller trouver la bonne personne. Après, on a une dépendance à l'algorithme. Je parlais tout à l'heure de quand on arrive sur LinkedIn, souvent c'est ce qu'on va faire un post. J'aurai l'occasion d'en reparler sur cet algorithme et sur toutes les complexités qu'il va y avoir sur l'algorithme quand on ira sur LinkedIn pour faire une mise en pratique. Mais bah, en fait, si votre post bide parce que vous n'avez pas respecté l'algorithme, bah, vous allez avoir du mal à recruter. Si vous n'avez pas un gros réseau sur LinkedIn de base, vous allez avoir du mal à recruter. Si vous ne respectez pas certaines règles ou vous ne postez pas au bon moment, vous allez avoir du mal à recruter. Et enfin, ce que j'appelle la foire à la saucisse. Chaque post LinkedIn que vous allez faire en tant qu'école pour le recrutement va donner lieu à une foire à la saucisse parce que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que je poste, je recherche un intervenant en machin pour tendeur à Paris. Je vais avoir des personnes qui taguent des personnes en commentaire, des personnes qui disent merci mais je ne suis pas dispo, des personnes qui disent pas merci, mais qui vont parler et ajouter la personne dessus, des personnes qui vont appeler l'accueil, des personnes qui vont envoyer leur CV à l'accueil, des personnes qui vont envoyer des mails. Si vous avez le malheur de mettre votre téléphone portable sur LinkedIn, vous allez être harcelé sur votre téléphone portable, etc., etc. Donc ça fait que c'est super, vous avez des candidats, mais ils vont dans tous les sens. Vous ne leur avez pas donné assez de détails, donc en plus, il y en a plein qui en fait bah, ne sont pas vraiment intéressés parce qu'ils cherchent à avoir de l'information. Donc en termes de perte de temps, je pense qu'on est au max possible, même si à la fin, je pense que ça va vous donner des possibilités de recrutement. Donc LinkedIn, attention à une utilisation qui va quand même devoir être très méthodique pour avoir bah, un ratio temps de recrutement et efficacité qui va être correct.
Donc merci à tous ceux qui ont participé au webinaire. Le replay sera envoyé par email avec donc on avait parlé d'une ressource, je sais plus, c'était un questionnaire dont on avait dit
Ressources, c'est une sorte de livre blanc enfin, qui va
petit
vous
livre blanc, bah
accompagner
super.
sur la capacité à poser les bonnes questions et, lors d'un entretien pour évaluer la pédagogie.
Génial. Eh bien, écoute, Théo, merci beaucoup également pour le temps accordé
De rien.
aujourd'hui. Et je souhaite à tout le monde des très belles formations. Et n'hésitez pas donc à aller voir tenors.app si jamais vous êtes curieux et
Ouais.
que vous voulez en savoir plus.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.